Bonjour à toutes et à tous, c'est Jamy. Bienvenue dans Par ici le futur, le podcast qui interroge l'avenir en Occitanie. Comment se nourrir demain? Quels moyens de transport seront utilisés par nos enfants et nos petits-enfants? Comment produirons-nous l'énergie nécessaire à notre quotidien? Ce sont les questions que nous posons à celles et ceux qui travaillent dès aujourd'hui au monde de demain. Ensemble, partons explorer ce territoire engagé dans des solutions d'avenir.
Par ici, le futur.
Faire comprendre ce qu'est l'agriculture d'aujourd'hui et ce que sera l'agriculture de demain.
Il est question d'une transformation profonde du monde agricole.
C'est aussi ça l'agriculture, c'est une diversité de stratégies, de modes de vie, de rapports au territoire.
Aujourd'hui, je vous propose comme première étape de notre odyssée, l'agriculture. Un secteur qui traverse des transformations profondes, une révolution, diront certains, effondrement du nombre d'agriculteurs, nouvelles formes d'organisation du travail, inquiétudes environnementales, vulnérabilité face aux conséquences du réchauffement climatique. Des bouleversements qui ont conduit à une mobilisation des agriculteurs en ce début 2024. Alors, l'agriculture pourra-t-elle encore remplir nos assiettes dans 10 ou 15 ans? Pour le découvrir, nul besoin de machine à voyager dans le temps, une carte de la région Occitanie suffira. De Toulouse à Nîmes, de Montpellier à Perpignan, de Tarbes à Montauban, en passant par Mende, l'Occitanie est une terre agricole pleine de richesses. Avec 64 300 exploitations, l'Occitanie est la deuxième superficie agricole de France. La première région bio en termes de surface, elle concentre à elle seule 20% des surfaces françaises en agriculture biologique. L'Occitanie est aussi une des régions françaises qui investit le plus en faveur de l'agriculture, à hauteur de 9 euros par habitant et par an, contre 5 euros en moyenne à l'échelle nationale. Cette région est réputée pour ses produits de salaison, ses fromages, ses viandes, ses volailles, ses fruits et légumes, sans oublier les vins. On compte pas moins de 59 AOP, appellations d'origine contrôlée, et 35 IGP, indications géographiques protégées parmi les vins de la région. AOP et IGP sont des labels très prisés. Ils certifient l'origine d'un produit et son mode de production. Je n'oublie pas non plus les grandes cultures très présentes dans la région, les céréales, le blé, le maïs, les oléagineux, comme le tournesol ou les protéagineux, comme le soja. 64 300 exploitations, disais-je, c'est beaucoup, mais c'est 14 000 de moins qu'en 2010, soit une baisse de 18%. Et la tendance ne va pas s'inverser. En France, en 2019, plus de la moitié des agriculteurs avaient plus de 50 ans, ce qui veut dire que dans les 10 années à venir, beaucoup vont prendre leur retraite. La transition démographique, voilà le premier des grands défis dont j'aimerais vous parler avant d'évoquer dans un deuxième temps la transition écologique. Alors pour parler du présent et du futur, j'ai le plaisir d'accueillir François Purseigle. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous dirigez le département des sciences économiques, sociales et de gestion de l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse. Vous avez coécrit un livre au titre intrigant, mais très accrocheur, Une agriculture sans agriculteurs. C'est aux éditions Les Presses Sciences Po. Je rassure nos auditeurs, il n'est pas question dans ce livre d'une agriculture entièrement confiée à des machines, des robots ou des tracteurs autonomes. Il est question d'une transformation profonde du monde agricole. Alors qu'est-ce qui change le plus, François Purseigle ?
Ce qui change le plus, c'est finalement la manière avec laquelle ces exploitations agricoles qu'on appelait jadis des fermes s'organisent en famille encore le plus souvent, mais s'organisent en termes de prise en charge aussi du travail. Ce qui se joue en ce moment avec cet effacement démographique sans précédent de la population des chefs d'exploitation, eh bien, l'arrivée aussi de nouveaux publics, de nouveaux producteurs, parce que l'agriculture, ce sont 398 000 chefs d'exploitation, mais c'est pas moins de 900 000 actifs, c'est-à-dire salariés, qui interviennent aussi sur des exploitations et qui ne sont pas forcément toujours embauchés par ces exploitants agricoles. Donc on voit bien que le travail se recompose dans ce qu'on appelait jadis des fermes, qui sont devenues plus tard des exploitations et qui sont appelées à devenir des entreprises aux stratégies de plus en plus variées. Et finalement, l'adjectif agricole ne permet pas toujours de bien définir ce que sont des fermes artisanales et commerciales, des fermes plus patrimoniales ou des fermes plus industrielles. C'est aussi ça l'agriculture, c'est une diversité de stratégies, de modes de vie, de rapports au territoire.
Avec une population qui a du mal à s'y retrouver dans ce kaléidoscope en quelque sorte.
Tout à fait, et c'est bien là aussi le sujet central dans ce que les agriculteurs appellent ce désamour ou cette incompréhension avec le reste de la société. On ne peut pas parler de désamour, mais effectivement d'une incompréhension, parce que très souvent, l'agriculture, en France comme dans notre région, est assignée à des images. C'est-à-dire qu'on assigne aux agriculteurs des réalités qui n'ont plus toujours cours. Comme si finalement une partie des Français était amnésique de ces transformations auxquelles ils ont pu être les spectateurs dans d'autres secteurs d'activité. Comme si on ne voulait pas que la ferme d'antan évolue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a une agriculture, même une agriculture régionale, qui ne correspond pas toujours à ce à quoi pensent les consommateurs, les citoyens, les voisins.
Vous voulez dire que les consommateurs ont une vision un petit peu romantique de l'agriculture ?
Je suis assez convaincu du fait que l'agriculture, à la fois en Occitanie ou dans la France entière, est souvent fantasmée. Et c'est bien ça aussi ce qui est central dans la colère ou le malaise des agriculteurs. C'est-à-dire que on accepte finalement d'autres secteurs d'activité ce qu'on n'accepterait pas du secteur agricole. On n'accepte pas qu'un agriculteur puisse, pourquoi pas, étendre un poulailler, mutualiser ses outils de production. Or, dans un contexte d'effacement démographique, il est tout à fait logique que les agriculteurs cherchent à mutualiser leurs outils. Et ça, ça génère des incompréhensions. Et c'est vrai qu'il y a tout un travail de pédagogie à faire pour justement faire comprendre ce qu'est l'agriculture d'aujourd'hui et ce que sera l'agriculture de demain et la réinsérer dans nos territoires.
Alors on va en parler de cet effacement démographique. En 10 ans, le nombre d'exploitations a baissé de 18% dans la région Occitanie. Au niveau national, c'est encore plus puisque la baisse atteint 21%. C'est donc un phénomène global. À votre avis, François Purseigle, je suis sûr que vous avez une réponse, pourquoi le métier d'agriculteur ne suscite plus de vocation ?
Je ne dirais pas ça. Je pense que le métier d'agriculteur attire. Et on le voit en Occitanie. On a énormément de porteurs de projets dans ce qu'on appelle les points info installations. Mais ce métier n'attire pas pour les mêmes raisons qu'hier. C'est aussi pour ça qu'il y a un décalage entre finalement le projet du porteur de projet et l'offre d'exploitation qui seront libérées. Et il y a tout un enjeu, notamment en Occitanie, à faire en sorte que le porteur de projet puisse se retrouver dans la petite ferme auquel il aspire. Parce que en Occitanie comme ailleurs, on a aussi beaucoup de petites fermes qui ne sont pas reprises par ces nouveaux venus. On a des exploitations de taille moyenne qui ne sont pas forcément reprises parce que ces porteurs de projet ne se retrouvent pas toujours dans l'organisation du travail qui est celle portée par les parents ou les cédants.
Jusqu'à il y a encore quelques années, on était agriculteur de père en fils et ce modèle est en train d'évoluer.
Oui, même si une majorité d'exploitations agricoles sont reprises par des enfants d'agriculteurs, on voit arriver aujourd'hui des publics nouveaux. Pas moins de 30% des jeunes de moins de 40 ans qui s'installent aujourd'hui ne sont pas forcément issus de ce qu'on va appeler les mondes agricoles. L'agriculture est souvent un métier qui se pense comme une étape dans une carrière. On arrive en agriculture après avoir été salarié, instituteur, infirmier, médecin. C'est vrai pour les enfants d'agriculteurs comme pour les non-issus du monde agricole. Donc ce métier est regardé différemment par de nouvelles populations, mais surtout par de nouvelles générations qui ne regardent plus le produit de la même manière, qui ne regardent plus l'organisation du travail de la même manière, qui ne conçoit pas les marchés agricoles aussi de la même manière. Et c'est aussi pour ça que ces nouvelles générations investissent dans les circuits courts, dans l'agriculture biologique, le plus souvent. Et puis, un autre point à retenir, c'est que seule une minorité d'entre eux ont un conjoint ou une conjointe qui exerce le même métier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'ils s'organisent différemment, à travers de l'entraide, à travers un recours à des entreprises qui vont leur donner un coup de main pour quelques tâches ou beaucoup de tâches, voire embaucher des salariés. Et c'est aussi ça le visage de l'agriculture.
Pour faire face à la baisse du nombre d'exploitations et éviter un futur sans agriculteurs, la région Occitanie soutient les nouveaux agriculteurs, appelés les néo-agriculteurs, qui s'installent dans la région. Une aide qui se chiffre à 38 millions d'euros par an, 190 millions sur les 5 prochaines années. Parmi les mesures phares de ce plan, un bonus jusqu'à 2000 euros réservé aux femmes qui souhaitent s'installer, une première en France. Parce qu'on n'a pas seulement besoin de plus d'agriculteurs, mais aussi de plus d'agricultrices.
Oui, parce que très souvent, elles impulsent des dynamiques nouvelles. Il ne faut pas oublier que ce sont très souvent des femmes qui ont porté des projets de circuits courts, de boutiques de producteurs, qui se sont intéressées aussi au développement des signes officiels de qualité, notamment dans notre région. Et ce sont des actrices de l'agriculture qui, très souvent, hésitent à porter un projet qui serait le leur. Et nombre de porteuses de projets hésitent à franchir ce cap. C'est parfois plus difficile pour une jeune femme aussi qui souhaite s'installer que pour un garçon, tout simplement parce qu'on a des acteurs aussi de l'économie agricole qui hésitent à accompagner ces actrices de la production agricole, ces porteurs un peu atypiques que sont aussi très souvent des femmes qui innovent en matière de transformation, de commercialisation. Donc ça fait hésiter aussi des partenaires qui ont davantage l'habitude de travailler avec des garçons. Et puis, elles hésitent aussi parce que l'organisation du travail n'est pas toujours adaptée dans ces exploitations qui sont cédées et qui étaient des exploitations de couple. Et quand on est une jeune femme, notamment, qu'on souhaite s'installer seule parce que son conjoint fait autre chose, parce que c'est aussi ça, l'agriculture, c'est parfois une exploitante et puis un conjoint qui travaille à l'extérieur, eh bien, il convient justement de réarmer ces porteuses de projets pour faire en sorte justement que leur projet puisse se déployer comme elles le souhaitent.
On a beaucoup entendu parler des revenus lors de la mobilisation des agriculteurs. Est-ce que ces revenus peuvent être un obstacle à l'installation ?
L'agriculture, c'est aussi un métier de passion et c'est peut-être aussi le drame des agriculteurs et des agricultrices français que de ne pas voir finalement les récompenses de ce travail passionné au quotidien, ce qui constitue, selon moi, finalement, une difficulté dans les mondes agricoles, c'est de considérer que le prix de l'effort n'est pas récompensé. Je pense que la plupart des agriculteurs ne cherchent pas forcément des salaires mirobolants, ils cherchent simplement à être comme les autres. Et au cœur du malaise agricole se situe aussi cela. C'est-à-dire qu'on a des agriculteurs qui sont de mieux en mieux formés. Une majorité d'entre eux ont une formation de niveau bac, voire issue de l'enseignement supérieur. Ils n'ont pas envie d'être à côté de leurs camarades de classe qui ont choisi un autre métier. Ils ont envie d'avoir un revenu qui correspond aussi à leur mode de vie et qui correspond aussi finalement à ce qui est leur travail. C'est-à-dire qu'ils reprochent très souvent le fait que le revenu ne soit pas à l'image du temps de travail. C'est ça qui les préoccupe, c'est pas tant le revenu en soi que le décalage entre l'effort consenti et le retour sur investissement.
Alors, en Occitanie, le revenu par exploitation est le plus faible de France, malgré une montée en gamme dans la qualité des produits. Qu'est-ce qui explique ces faibles revenus ?
Ce qui explique ces faibles revenus, ce sont aussi les injonctions paradoxales et contradictoires. Les agriculteurs et agricultrices d'Occitanie ont répondu à cet appel de la montée en gamme avec réussite. Mais malheureusement, on voit bien qu'un certain nombre d'acteurs de la grande distribution ou des industriels importent des produits qui sont issus de ce qu'on va appeler les entrées de gamme. Et les consommateurs sont plus forcément toujours au rendez-vous. C'est aussi ça le drame de l'agriculture française et parfois même régionale, que d'avoir misé sur une agriculture vers laquelle certains consommateurs se détournent. En Occitanie tout particulièrement, un certain nombre d'agriculteurs ont misé sur les circuits courts, ont mis en place des boutiques de producteurs qui, après la crise de la Covid, ont vu le chiffre d'affaires chuter de 20 à 30%. Donc, on a aujourd'hui des consommateurs qui doivent aussi se poser la question de leur capacité à répondre à leur ambition et leur volonté.
Alors, on a évoqué des chiffres d'installation qui sont à la baisse en Occitanie comme ailleurs. Et pourtant, dans ce triste tableau, on va dire, l'Occitanie enregistre le taux d'installation le plus élevé du pays. Plus de 2200 agriculteurs se sont installés dans la région en 2019. C'est le cas de Julien Novak. Il s'est installé en 2021 à l'âge de 34 ans, bénéficiant d'une aide aux jeunes agriculteurs. Nous l'avons rencontré et je le laisse se présenter.
Salut Jamy, c'est Julien Novak du domaine des Célestes, dans le Gard à Vauvert.
Alors Julien est passionné de vin blanc qu'il produit à partir de vignes qu'il élève en biodynamie. Il s'est installé dans les Costières de Nîmes, célèbre terroir situé dans le département du Gard. Il a repris un domaine pionnier de l'agriculture biologique depuis 1984. 9 hectares de vignes en bio. Mais Julien Novak, à l'origine, est parisien. Alors pourquoi avoir choisi de s'installer en Occitanie ? Il nous explique.
La région Occitanie, pour moi, était celle qu'offrait le plus d'opportunités vis-à-vis de mon installation au niveau des surfaces en bio, vu que c'était la région qui avait le plus de surface et qui a toujours le plus de surface aujourd'hui en bio. C'était plus simple pour moi de trouver un domaine en bio et de pouvoir le convertir plus facilement à la biodynamie.
Alors, on l'a dit, Julien est parisien, mais surtout, il n'a pas toujours été vigneron. Après des études en logistique, il est devenu ingénieur d'études dans l'énergie nucléaire et la pétrochimie, un métier qu'il exerce sans enthousiasme. Sa véritable passion, il la découvre plus tard dans les assiettes et dans les verres. Julien s'est mis à table à notre micro.
Je trouvais plus de plaisir à discuter du produit qu'est le vin avec les sommeliers, avec les vignerons que j'allais rencontrer après quand je partais en week-end, qu'à mon propre métier. Donc du coup, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai démissionné de mon travail et je suis parti faire une école de commerce dans le vin à Bordeaux qui m'a délivré un master spécialisé en commerce du vin et en marketing. Et pareil, après, du coup, quelques années dans le monde du vin en tant que commercial, pareil, rebelote, je me dis, c'est pas encore assez loin dans ce que je veux faire. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de passer un BTS Vitueno par correspondance, donc qui est reconnu comme étant un diplôme agricole, qui est obligatoire pour accéder, en fait, puisque déjà j'avais cette idée-là dans ma tête à ce moment-là. C'est un diplôme obligatoire pour accéder aux aides de la région et aux aides européennes, puisque c'est un prérequis que d'être diplômé en agriculture pour pouvoir accéder à ces aides-là.
Le parcours plein de rebondissements de Julien Novak, installé comme agriculteur dans la région à l'âge de 34 ans, après avoir passé un BTS viticulteur œnologie, viti-œno, comme on dit dans le jargon. Un parcours qui lui a permis d'accéder à la dotation jeune agriculteur, une aide financière régionale qui soutient l'installation d'une exploitation agricole et la reprise des exploitations existantes par les nouvelles générations dans la région. Une aide particulièrement bienvenue pour tenir les premières années, nous explique Julien.
C'est une aide qui peut être assez substantielle à l'installation, qui au moins dans mon cas m'a aidé à subvenir, on va dire, aux premières années de trésorerie. Parce qu'en fait, dans les premières années, quand on fait du vin et qu'on s'installe, y a quand même deux années où on tourne un peu à vide. Le vin ne se vend pas tout de suite, donc il faut pouvoir subvenir aux dépenses et à ces choses-là les deux premières années.
François Purseigle, vous avez entendu le témoignage de Julien. Des histoires comme celle-ci, vous en connaissez des dizaines. Julien est donc jeune vigneron, un nouveau venu en agriculture. Ces reconversions sont de plus en plus fréquentes, mais attention au mirage de l'agriculture, c'est un métier dur. Comment réussir ce passage ?
Oui, l'agriculture, c'est non seulement un métier qui nécessite d'être bien formé, et on le voit, la plupart des jeunes entrant dans cette profession sont de mieux en mieux formés aussi parce qu'on bénéficie en France et en région Occitanie d'un réseau sans pareil en matière d'enseignement agricole avec des lycées, des maisons familiales, bref, un certain nombre d'outils de formation. Mais ce qui fait la réussite d'une installation, d'une création d'entreprise en agriculture, c'est non seulement la formation, mais aussi la montée en compétences. Aujourd'hui, une exploitation agricole, on ne peut la voir réussir que si on est en capacité de réorganiser le travail, d'anticiper finalement la construction d'un prix, de proposer aussi finalement une gamme plus ou moins élargie de produits. Bref, pour réussir aussi en agriculture, il convient d'être armé de compétences organisationnelles, juridiques. C'est aussi ça, l'agriculture, c'est un métier de plus en plus complexe. On idéalise, on fantasme très souvent l'agriculture et on le voit bien. On a aujourd'hui des porteurs de projets qui reculent avant de s'installer ou parfois on a ce qu'on appelle des départs précoces, c'est-à-dire au bout de 3 à 4 ans, Parce que, ben voilà, créer une activité en agriculture nécessite parfois de repenser le système d'exploitation, l'organisation du travail, la commercialisation. Voilà, donc l'agriculture, c'est non seulement une question de formation, mais c'est aussi une question de compétences.
Oui, une exploitation agricole, ce n'est pas un jardin.
Ce n'est pas un jardin. Pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on se lance en agriculture, ben, il vaut mieux savoir monter sur un tracteur, ce qui n'est pas toujours le cas quand même d'un certain nombre de porteurs de projets. Il faut aussi savoir dialoguer avec des parties prenantes du territoire, aller chercher finalement la ressource où elle se situe. Et souvent, ces nouveaux porteurs de projets ne savent pas qu'il existe des coopératives d'utilisation de matériel en commun, des coopératives leur permettant, pourquoi pas, de faire aussi, dans un premier temps, un peu de vinification pour eux et puis de les aider commercialement. On oublie aussi très souvent que on a des outils, des services qu'on ne mobilise pas toujours. Et une installation réussie, c'est aussi des porteurs de projets qui ont su repérer à l'échelle du territoire l'ensemble des acteurs, des organisations et des parties prenantes susceptibles de les accompagner.
Alors Julien raconte qu'il s'est installé comme agriculteur progressivement. Hein, il a gardé son emploi la première année. Et qu'est-ce que vous pensez de cette entrée en matière ? Est-ce que c'est un exemple à suivre, un modèle ?
Les chemins qui conduisent à l'agriculture sont des chemins de plus en plus sinueux. On entre en agriculture plus tardivement, je l'ai dit tout à l'heure, avec une formation de plus en plus élevée. Et très souvent, les incertitudes qui planent autour du projet agricole conduisent un certain nombre d'agriculteurs et d'agricultrices à garder un pied dans leur métier antérieur. Tout simplement parce que finalement, en étant plus réactif, on peut construire un revenu avec d'autres sources financières. Et c'est aussi très souvent une étape.
Alors pour faciliter l'installation de nouvelles générations d'agriculteurs, la région Occitanie a créé un autre dispositif, la première foncière agricole régionale de France. La foncière agricole est une structure qui peut acheter un terrain agricole à la place de l'agriculteur pour lui permettre d'investir en priorité dans le matériel. On va prendre un exemple. En Lozère, une exploitation de vaches laitières nécessitait de lourds investissements matériels. La foncière a acheté les 75 hectares de terrain pour un montant de 150 000 euros. Pendant 9 ans, elle louera les terres à l'exploitant qui vient de reprendre cette affaire, ce qui va lui permettre d'investir dans du matériel. 8 projets d'installation ont déjà été soutenus depuis 2022 par la foncière agricole régionale. La baisse du nombre d'exploitants n'est pas la seule menace qui pèse sur l'agriculture. Face au changement climatique, le secteur doit très vite s'adapter. La transition écologique, c'est le deuxième volet de ce podcast. Alors, comme d'autres régions, l'Occitanie n'échappe pas aux événements météorologiques extrêmes. La ressource en eau y est de plus en plus vulnérable. La question de l'eau est d'ailleurs l'un des thèmes développés dans un autre épisode de Par ici le futur. Face au réchauffement climatique, quelle sera l'agriculture de demain ? Comment s'adapter ? Quels seront les modes de production viables ? Et face au déclin de la biodiversité, comment les pratiques agricoles doivent-elles évoluer ? Pour répondre à ces questions, nous avons contacté l'association Solagro, basée à Toulouse depuis une quarantaine d'années. Elle accompagne les agriculteurs sur les chemins de cette transition. Nous avons demandé à Nicolas Métayer, le directeur adjoint, ce qui globalement avait changé depuis 40 ans.
Alors, on est passé en quelques années d'un système finalement d'anticipation où on essayait de sensibiliser les acteurs du monde agricole, les agriculteurs, mais aussi les conseillers agricoles qui les accompagnent sur l'impact grandissant de ce dérèglement climatique. Et depuis finalement 4-5 ans, on vit concrètement ce dérèglement climatique, on subit des impacts qui ont aujourd'hui des conséquences sur les systèmes agricoles.
Et le dérèglement climatique n'épargne aucune filière agricole, qu'il s'agisse de grandes cultures, d'élevage, de maraîchage, d'arboriculture ou de viticulture, tous les secteurs sont confrontés à des aléas climatiques. Ces aléas sont parfois dus aux fortes précipitations ou à la sécheresse. Ils sont difficilement prévisibles et ont des conséquences parfois très lourdes. Nicolas Métayer en dresse une liste malheureusement non exhaustive.
Ça peut être, par exemple, des soucis de gel pour la viticulture. Ça va être ensuite des problèmes d'échaudage, donc des stress thermiques au moment du remplissage des grains pour du blé tendre. Et puis, si on s'intéresse à l'élevage, on va avoir aussi des problématiques autour de la sécheresse pour produire des fourrages, mais aussi des difficultés physiologiques pour les vaches à évoluer dans davantage de vagues de chaleur. Et la difficulté avec ce dérèglement climatique, c'est la répétition de ces aléas. On en est encore aux prémices, mais on commence à avoir ces répétitions qui interrogent les systèmes de production en place par rapport à leur pérennité.
Et oui, au-delà de 23-24 degrés, la production laitière diminue parfois jusqu'à 20%. Alors c'est compliqué pour l'agriculture qui doit à la fois s'adapter pour faire face aux conséquences du réchauffement climatique, réduire ses émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au réchauffement, tout en continuant à remplir sa mission, nourrir la population. Pour répondre à ce triple défi, de plus en plus de regards se tournent vers l'agroécologie, un ensemble de pratiques aux impacts bénéfiques pour l'environnement. Nicolas Métayer nous en donne un exemple.
Une des pratiques agroécologiques qui peut se massifier en France aujourd'hui, c'est la mise en place de couverts végétaux. Donc entre deux cultures principales, on va avoir un certain laps de temps pendant lequel on peut éventuellement avoir un sol nu, voilà le temps que l'on met en place la seconde culture suite à la récolte de la première. Et donc si on vient faire pousser un végétal, donc un couvert végétal pendant cette période-là, ce couvert va avoir une fonction de protection déjà du sol. On va avoir un fonctionnement avec de la photosynthèse, ce qui va pouvoir aussi renforcer les échanges avec le sol, la fertilité du sol et surtout le fonctionnement de ce sol vis-à-vis de toute la vie qu'il emmagasine face à des à-coups climatiques. Garantir un bon fonctionnement des sols, c'est déjà essayer de mieux passer les prochaines étapes, par exemple de sécheresse à venir.
Et parmi toutes les plantes qui peuvent assurer ce couvert végétal, eh bien on trouve le trèfle, les pois, les radis, la moutarde, le sorgho. La liste est longue et il ne faut pas s'étonner de voir les champs couverts par cette végétation pendant l'hiver et au début du printemps. Un autre exemple pour illustrer l'agroécologie. On retourne dans le Gard, à Vauvert, dans les vignes de Julien.
J'ai un projet aussi d'abri à chauves-souris dans les vignes pour pouvoir faire revenir les chauves-souris, qui est un auxiliaire de travail pour nous important au niveau de, par exemple, des papillons, des tordeuses de la grappe qui vont être des insectes qui vont être un peu ravageurs dans certaines périodes critiques de l'année.
La chauve-souris consomme de grandes quantités d'insectes. Ces animaux peuvent donc être considérés comme des auxiliaires de travail. Une solution qui a d'ailleurs fait l'objet d'un programme de recherche en 2017. Développer l'agroécologie amène à repenser les systèmes de production et nécessite un changement des pratiques agricoles. Pour aider les agriculteurs dans cette démarche, la région Occitanie a mis en place un contrat agriculture durable qui leur offre un accompagnement personnalisé. Il est financé à hauteur de 1 500 euros par agriculteur et il est dispensé par l'une des 35 structures sélectionnées par la région. Dans le futur, face au changement climatique, il sera aussi crucial de bien sélectionner les plantes et les cultures que l'on souhaite exploiter. En choisissant des cépages résistants aux maladies, par exemple, pour rester dans le domaine de la vigne. L'interprofession du vin, avec l'appui de la région Occitanie, déploie depuis plusieurs années maintenant des cépages capables de résister aux deux principales maladies qui affectent la vigne, le mildiou et l'oïdium. Nous avons contacté Marie Corbel, directrice technique au pôle technique interprofessionnel régional, pour en savoir un peu plus sur ces variétés. Pour info, l'interprofession viticole est composée de structures qui rassemblent toutes les professions d'une filière, de la production à la commercialisation. Marie Corbel connaît bien l'histoire de ces nouvelles variétés. Ce n'est pas récent.
Oh bah ça date, hein, ça fait depuis plus de 30 ans, hein, probablement que la filière s'est intéressée à ces variétés qui ont fait l'objet d'un programme de création variétale depuis 1974 par le chercheur Alain Bouquet qui était basé à Montpellier et qui a abouti en 2009 à l'obtention de 32 différentes variétés dites qu'on appelle Bouquet à cause de ce chercheur. Et depuis ces années-là, voilà, la filière languedocienne a voulu utiliser et valoriser ces variétés qui étaient issues de nos cépages emblématiques et qui étaient adaptées à notre terroir méditerranéen.
Pour obtenir des cépages résistants, on a fait des croisements, un procédé vieux comme le monde. Au départ, un croisement entre deux espèces, l'espèce Vitis vinifera, mieux connue sous le nom de vigne, et une autre espèce végétale, génétiquement assez proche, qui avait justement cette capacité de résistance aux maladies. À la suite de ce premier croisement, le chercheur Alain Bouquet, dont on a parlé à l'instant, a procédé à des rétro-croisements, c'est-à-dire des croisements avec la même espèce Vitis vinifera sur plusieurs générations pour se rapprocher au plus près de la vigne de départ. Une démarche assez classique, somme toute, nous explique Marie Corbel.
Dans la vigne, ce n'est pas forcément quelque chose qui était fait couramment, mais alors dans toutes les autres filières du végétal, c'est ce qui est fait depuis des lustres et des lustres par les paysans eux-mêmes. Hein, quand il y avait des variétés qui les intéressaient, des caractéristiques qui les intéressaient, ils croisaient, ils multipliaient, ils reproduisaient pour aboutir à ce qu'ils attendaient. Donc là, c'est exactement la même chose, à part que pour la vigne, ça prend beaucoup plus de temps.
Résultat, après plusieurs croisements, on a obtenu des vignes proches de l'espèce de départ avec le gène de résistance issu d'une autre espèce végétale, autrement dit des cépages résistants. Et pour Marie Corbel, les résultats sont très intéressants.
Ah oui, ils sont très très satisfaisants. Ils sont satisfaisants déjà d'un point de vue de la résistance aux maladies qui a duré dans le temps. Donc déjà sur le premier critère qui était celui de la tolérance, elles ont démontré toute leur capacité. Et puis nous, ce qui nous intéressait évidemment, c'était la qualité des vins. Et là, on a pu vraiment les vinifier sur des terroirs différents, avec des méthodes de vinification différentes. Et voilà, on a retrouvé, on va dire, des aires de famille avec nos variétés anciennes. Notamment, on a des variétés dites bouquets qui sont des descendants du grenache. Et on retrouvait la typicité du grenache. On l'a retrouvé sur la parcelle, dans l'aspect visuel du cépage, et également dans le vin. Donc là, ça cochait toutes les cases.
Le monde viticole est très réglementé. Pour pouvoir être exploitées, les variétés de cépages que l'on plante doivent être inscrites au catalogue officiel et classées. Après évaluation, certaines de ces variétés pourront intégrer le classement, être plantées et produire du raisin pour en faire du vin. Tout cela, évidemment, n'aurait pas pu être fait sans le soutien de la région, a tenu à souligner notre interlocutrice.
Il a été crucial, le soutien de la région, parce que il y a eu un choix politique de soutenir la volonté de la filière d'aller expérimenter ces variétés bouquets. Comme elles n'étaient pas classées définitivement, les vignerons qui les plantaient ne pouvaient pas avoir d'aide à la plantation. Donc déjà là, la région est venue compenser cette absence d'aide.
Et puis, il a fallu suivre l'évolution de ces variétés expérimentales, les étudier, les observer tout au long du parcours. La région Occitanie a apporté son soutien. Aujourd'hui, en France, 49 variétés de cépages résistants sont inscrites définitivement au catalogue et peuvent être plantées librement. Préparer l'avenir, c'est aussi s'appuyer davantage sur l'agriculture biologique. Avec plus de 13 000 exploitations en agriculture biologique et sur plus de 600 000 hectares, l'Occitanie est la première région bio de France et même la meilleure région bio d'Europe, un prix reçu en 2022. 20% des surfaces régionales sont cultivées de cette manière, contre un peu plus de 10% au niveau national. Même si le sujet n'est pas nouveau, il est toujours bon de rappeler les effets de ce type de pratique sur l'environnement. Petite piqûre de rappel avec Nicolas Métayer.
Alors l'agriculture biologique a pour gros avantage de ne pas s'appuyer sur des intrants de synthèse, donc notamment des engrais minéraux azotés qui eux sont très pollueurs en matière de gaz à effet de serre. Il faut beaucoup d'énergie donc pour les produire, et ensuite quand on va les apporter, et notamment les apporter en excès, on va avoir un certain nombre de pollutions au nitrate. Et puis l'autre gros avantage, c'est aussi le fait de ne pas employer finalement des produits phytosanitaires de synthèse qui sont là encore, une source majeure de pollution des eaux, des eaux superficielles et souterraines. Donc, massifier l'agriculture biologique, c'est à la fois donc des améliorations sur la diminution des gaz à effet de serre et sur la qualité de l'eau de manière générale.
Après un premier plan de soutien couvrant la période 2018-2022, la région Occitanie a lancé un nouveau plan bio en partenariat avec l'État, les agences de l'eau de la région et Interbio Occitanie, une association interprofessionnelle régionale, un budget de 134 millions d'euros sur la période 2023-2027. Parmi les objectifs de ce plan, transformer 25% de surfaces agricoles en agriculture biologique et doubler la consommation alimentaire bio des ménages à l'horizon 2027. François Pursaigle, je reviens vers vous. L'année 2024 a démarré avec un mouvement de colère des agriculteurs. Certains ont traversé le pays en tracteur pour venir manifester à Paris. Beaucoup ont le sentiment de ne pas être compris d'une grande partie de la société. Pourquoi ?
Parce qu'il y a une crise de confiance entre des agriculteurs qui voient partir des consommateurs qui en appelaient à la bio ou au circuit court se tourner vers des entrées de gamme. Crise de confiance à l'endroit aussi de voisins qui n'acceptent pas qu'ils puissent porter des projets d'entreprise qui sont les leurs. Crise de confiance aussi vis-à-vis peut-être de certains industriels et de certains distributeurs, je dis bien certains. Il n'y a pas un bouc émissaire hein, à cette crise, à ce malaise. Il y a une lame de fond, hein, une lame de fond qui est liée à ce sentiment finalement de se voir disparaître, cette idée que l'agriculture pourrait être portée aussi par d'autres que. Parce que très souvent, on a des consommateurs qui se tournent vers des produits qui sont issus d'une agriculture qui est très très loin de l'agriculture occitane ou française. Donc ce malaise, il est lié au fait que les agriculteurs se pensent peut-être incompris ou méconnus. Les agriculteurs, et notamment d'Occitanie, sont porteurs de changements. Ils ne sont pas contre l'environnement ou les normes, hein, comme on peut le faire croire. Ils sont confrontés plus que jamais à la question environnementale. La question qui se pose est de savoir finalement comment ces réglementations s'adaptent aussi au changement de cette entreprise agricole qui est de plus en plus complexe, qui est beaucoup plus fragile, hein, quelle que soit sa taille.
Alors, dans la société, le métier d'agriculteur n'a pourtant rien d'un repoussoir. Bien au contraire, les sondages montrent un attachement à la profession. Alors, comment on explique cette contradiction ?
La plupart des Français se pensent filialement, je dirais, attachés à l'agriculture, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un siècle de ça, il y avait 10 fois plus de producteurs agricoles en France. La République française s'est construite aussi, cimentée, je dirais, autour de cette figure hein, qui est celle du paysan, soldat, laboureur, qui allait défendre les contours de la nation comme il défendait les contours de son champ. Les agriculteurs français sont le produit aussi d'une construction républicaine auquel les Français sont attachés. Les Français sont attachés à des campagnes travaillées par des paysans puis des exploitants agricoles. Et puis n'oublions pas une chose, c'est que cet attachement est aussi le fait de cette cristallisation autour d'un secteur qui incarne des enjeux forts, l'enjeu alimentaire, l'enjeu territorial, l'enjeu de l'emploi, bref, des enjeux qui caractérisent finalement les grands défis de la société de demain.
Est-ce que vous diriez qu'il n'y a pas de France sans agriculteurs ?
Je pense qu'il est difficile d'imaginer une France qui ne serait pas travaillée par celles et ceux qui, aujourd'hui, cherchent à innover et à répondre à de nouvelles attentes. Et plus que jamais, l'agriculture est attendue. Elle est attendue parce qu'elle est porteuse de sens et elle répond aussi à une ambition qui est celle d'assurer la souveraineté alimentaire.
Et malgré les changements profonds face auxquels est confrontée l'agriculture, on parle de révolution même, la ferme France peut rester performante.
Oui, la ferme France peut rester performante parce que la ferme France, ce sont des entrepreneurs aux projets artisanaux, commerciaux, patrimoniaux ou industriels. La performance, elle n'est pas qu'économique, elle est aussi sociale, elle est aussi territoriale, elle est aussi environnementale. La question qui se pose est de savoir quels sont les moyens qu'on mettra à disposition de ces agricultrices et de ces agriculteurs pour justement relever au regard de leurs projets qui sont disparates ces nouveaux défis.
Merci François Pursaigle. Je rappelle le titre de l'ouvrage que vous avez coécrit aux éditions Les Presses Sciences Po, Une agriculture sans agriculteurs. Voilà, nous arrivons au terme de ce voyage. On va résumer ce moment que nous avons passé ensemble. Dans les 10 ans à venir, près de la moitié des agriculteurs vont prendre leur retraite. L'installation de nouveaux chefs d'exploitation est donc un enjeu essentiel. Face au réchauffement climatique et aux pollutions, L'agriculture est en train de se réinventer et de changer de modèle. Sur tous ces enjeux, la région Occitanie a choisi de préparer l'avenir en soutenant l'installation de nouveaux agriculteurs, en soutenant l'agroécologie, l'agriculture biologique et la recherche. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode de Par ici le futur.
Ce podcast vous est proposé par la région Occitanie.